Bonjour à tous, je vais donc vous parler des enjeux de mémoire de la Grande Guerre et des enjeux d'histoire, et je vous dirai un mot sur cette différence. D'abord, en introduction, je voudrais rappeler que la Grande Guerre s'est toujours inscrite, hein, depuis les années 20, dans un débat qui a dépassé les historiens. C'est-à-dire que les premières histoires de la Grande Guerre et les premiers débats sont inscrits dans une période où, pour ce qui est de la France, évidemment, le pays était sorti traumatisé démographiquement et aussi sur son territoire du conflit. Donc, d'emblée, l'histoire se fait dans un contexte qui dépasse de loin l'académie, qui dépasse de loin l'université. Un des premiers grands débats sur la Grande Guerre, comme vous le savez sans doute, c'est la question des origines de la guerre. Et ce débat sur les origines de la guerre, qui était donc mené par des historiens de métier, parfois aussi par des journalistes ou des essayistes, mais qui était mené par des historiens de métier, comme Pierre Renouvin ou Jules Isaac, était un débat qui était d'emblée éminemment politique, qui avait des enjeux absolument considérables. Et donc, d'emblée, la Grande Guerre était mise dans un champ qui n'était pas celui simplement de l'histoire savante ou de l'établissement des faits ou des enjeux, mais qui est d'emblée politique. Hein, puisque, comme vous le savez aussi, ce débat sur les origines de la Grande Guerre, ça déterminait finalement toute la politique extérieure de la France dans les années 20 et 30. Et selon la manière dont on parlait des origines de la Grande Guerre ou pas, on pouvait orienter la politique étrangère de la France, puisque l'article 231 du traité de Versailles était une lecture historique des origines de la guerre, qui est une lecture historique qui, comme vous le savez, finalement condamnait l'Allemagne pour son agression. Donc, réfléchir en termes d'enjeux de mémoire et de la Grande Guerre dans une perspective plus large que le simple enseignement ou la simple recherche est une évidence, hein, d'emblée. C'est une évidence depuis les années 20, une évidence qui, à mon avis, d'ailleurs, ne s'efface pas complètement aujourd'hui, et j'essaierai de vous le montrer. Alors évidemment, les débats ne sont plus aussi chauds. Évidemment, les anciens combattants sont quasiment tous morts, alors qu'ils étaient des millions, hein, dans les années 20. Donc chaque livre qui paraissait pouvait être un enjeu, hein, de mémoire pour ses lecteurs directs. Il n'empêche, et c'est ce que j'essaierai de vous montrer dans une première thèse, c'est qu'il me semble que la Grande Guerre est encore porteuse d'un certain nombre d'enjeux de mémoire. Évidemment, moins brûlants, hein, que ceux qu'on a vus autour de l'esclavage, de la colonisation ou du génocide des Arméniens. Sans m'engager sur les mots, mais en tous les cas, tous ces débats-là sont évidemment brûlants. Ceux sur la Grande Guerre le sont moins, mais ils existent. Outre les enjeux de mémoire, j'essaierai quand même, puisqu'il y a une dimension évidemment pédagogique importante, de réfléchir avec vous, ce sera ma seconde partie, sur les enjeux d'histoire, en vous montrant d'une part que, à mon avis, les connaissances sur la Grande Guerre sont loin d'être stabilisées, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qu'à mon avis, elles prêtent éminemment à débat. Et j'essaierai d'articuler enfin ces deux aspects, c'est-à-dire comment lier les enjeux de mémoire et les enjeux d'histoire. Alors, on discute abondamment tous ici de cette différence entre histoire et mémoire. Dans mon propos, hein, ça n'a aucune prétention normative, j'entendrai mémoire, la présence du passé subjective dans les groupes sociaux, et l'histoire comme le travail savant. Hein, ça n'a pas une prétention autre que d'être heuristique pour mon propos. Donc si vous voulez, comme le temps est limité, entrons d'emblée dans la première partie, donc les enjeux de mémoire de la Grande Guerre. Alors évidemment, ce ne sont pas des enjeux brûlants, il n'empêche que c'est un terrain qui, en France en tous les cas, beaucoup moins en Allemagne, on pourra revenir sur les autres pays si vous voulez dans la discussion, mais je vais me concentrer sur la France, est un enjeu qui n'est pas sans écho dans l'espace public. Je prendrai un exemple que je connais un peu plus que d'autres, mais qui a peut-être, dont vous avez le souvenir, qui était le débat autour du discours de Lionel Jospin à Craon le 5 novembre 1998, où il s'était exprimé sur la bataille du chemin des Dames dans une commémoration tout à fait habituelle du point de vue de la date, moins du lieu, puisque Craon est un symbole assez fort des mutineries de la Grande Guerre. Donc du point de vue du lieu, c'était une rupture, du point de vue du discours, c'était finalement assez classique, un discours de commémoration, mais il avait dit qu'il entendait faire réintégrer dans la mémoire collective les mutins de 1917, et notamment ceux qui avaient été exécutés. Ce discours est devenu un enjeu majeur, finalement, pendant quelques mois, et a polarisé un certain nombre de débats politiques, puisque Lionel Jospin était accusé de favoriser, selon les uns ou les autres, le défaitisme, l'idée patriotique, bref, d'avoir eu une position gauchiste, antimilitariste, antipatriote, hein. Il y a un certain nombre d'accusations qui lui ont été lancées par la droite, avec un certain nombre de débats. Donc ça veut dire que l'évocation, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet événement, mais simplement pour vous rappeler, hein, qu'un discours public sur la Grande Guerre peut être un enjeu politique majeur, hein, encore aujourd'hui, il a été en 98, c'est il n'y a pas si longtemps. Donc le débat ensuite s'est évidemment affadi, mais il est resté quand même, il a fait la une des médias pendant quelques semaines. Alors, on pourrait discuter longtemps. Pourquoi est-ce que la Grande Guerre est un enjeu? Est-ce qu'elle était un prétexte? C'est-à-dire, est-ce que c'était une opposition au sein de la cohabitation? Ou est-ce qu'il y avait des enjeux de fond? Je pense qu'il y avait un certain nombre d'enjeux de fond, de choses qui n'étaient pas complètement réglées, notamment cet enjeu de la répression militaire et de sa légitimité, et qui n'est pas complètement aujourd'hui, malgré le discours de Lionel Jospin. Et c'est là où je pense qu'il y a des choses qui sont encore discutables, en tous les cas, qui peuvent rester des enjeux de mémoire. Par exemple, cette question des mutineries, cette question de la révolte militaire et de sa répression, paraissent encore en France un peu compliquées à gérer. Je vous en donnerai deux exemples concrets. Il y a un éditeur qui a récemment demandé une aide au ministère de la Défense pour la parution de deux livres sur 1914. Il y en avait un qui était sur le soldat inconnu et l'autre sur les mutineries. Du point de vue de la recherche de première main, je n'évalue pas les deux livres, hein, mais du point de vue de la recherche de première main, celui sur les mutineries était beaucoup plus neuf, beaucoup plus important et avait fait l'objet d'un plus gros travail. Évidemment, c'est l'autre, hein, qui a eu la subvention du ministère sans qu'on puisse comprendre de justification autre que le sujet. Donc comme si les mutineries restaient encore un sujet qu'il fallait peut-être, si ce n'est caché, parce qu'on n'en est évidemment pas là, du moins ne pas mettre trop en avant. La même chose pour un documentaire qui avait été fait un peu sur les mêmes questions, sur les fusillés de la Grande Guerre, qui avait été programmé d'abord à une heure de grande écoute sur des chaînes publiques et qui a été progressivement retardé. Et il a été retardé parce qu'il y a eu une intervention du ministère des Affaires étrangères et de l'armée, hein, pour demander à ce qu'il ne passe pas à 20h mais à 23h. Je peux vous revenir sur les détails. Donc ça reste quand même des choses qui, sans être tabou encore une fois, hein, parce que c'est le terme mauvais, ça peut rester des enjeux de mémoire, en tous les cas pour un certain nombre d'institutions publiques, hein, la répression militaire, la révolte militaire, la légitimité de la répression et les manières dont cette répression a été conduite ne sont pas des sujets si évidents, hein, dans l'espace public, comme l'a montré le discours de Lionel Jospin et ses exemples. Alors évidemment, c'est localisé, évidemment c'est limité. Je prétends pas que ce sont des débats de première importance et qui mettent en jeu l'identité nationale à chaque fois, mais à mon avis, mettre en jeu un certain nombre d'éléments sur lesquels je reviendrai. Donc ça, c'est à mon avis le premier enjeu de mémoire. Hein, ça reste un sujet qui n'a pas épuisé toutes ses potentialités de débat. Le deuxième élément qui s'inscrit dans un propos plus large, c'est à mon avis que la Grande Guerre reste un enjeu d'identité locale. Je vais prendre deux exemples, celui de la Bretagne et de la Corse, rapidement. Depuis la Grande Guerre, circule l'idée que les troupes bretonnes et les troupes corses ont été envoyées au massacre, hein, par des généraux qui sacrifiaient plus facilement les minorités. Et depuis les années 20, les nationalistes corses et bretons mettent en avant, hein, dans l'histoire de leurs martyrs, de leurs martyrologues, finalement, c'est cette répression cachée, masquée, hein, de la Grande Guerre de 14. Et ce sont des débats qui, lorsqu'il y a une agitation autour de l'identité bretonne ou de l'identité corse, sont très facilement réactivés. Ils ont été réactivés très fréquemment par les nationalistes, tant et si bien, par exemple, que les préfectures de Corse ont été obligées de demander une enquête au début des années 2000, hein, pour vérifier si oui ou non il y avait eu plus de Corses qui étaient morts à la guerre que les autres. Et donc, ils ont envoyé les gendarmes compter sur les monuments aux morts pour essayer de répondre, hein, à cette demande identitaire. Donc, du point de vue des identités locales, il me semble que la Grande Guerre reste un enjeu modeste, là aussi, mais qui n'est pas négligeable et qui est relativement intéressant. Il est d'autant plus intéressant que ce sont évidemment des identités dont on va plutôt se développer, soit qu'elles aient une dimension politique, soit qu'elles aient une dimension plus marketing, j'y reviendrai. Mais en tous les cas, il me semble que là aussi, c'est un enjeu de mémoire qui est intéressant et qui continue, comme le montre cette petite brochure de la préfecture de Corse, qui était vraiment une brochure qui n'avait pas de vertu pédagogique, mais une vertu proprement politique. Hein. Il s'agissait de répondre au discours sur le massacre des Corses à la guerre. Troisième élément qui peut, à mon avis, faire encore enjeu de mémoire et faire réfléchir, c'est de s'interroger sur la place de la Grande Guerre comme un symbole national actif. Que ce soit un symbole national, c'est une évidence. La question, c'est est-ce qu'il est activable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'en servir politiquement? Et donc, est-ce que ça peut devenir un débat? Il me semble que, en observant l'actualité récente, ça l'est. J'ai été frappé, par exemple, par la mobilisation que vous avez suivie, puisque ça date de l'année dernière, hein, pour l'inhumation du dernier poilu dans un lieu national avec toute la cérémonie qui l'accompagnerait. Alors on hésite et on débat, hein, mais le président de la République a donné son accord, donc c'est une cérémonie qui se prépare. À mon avis, ils vont avoir du mal à savoir quel est le dernier poilu. En plus, pour des raisons assez compliquées, hein, tous ne sont pas recensés, donc le problème c'est est-ce qu'ils vont pas inhumer un dernier poilu qui n'en est pas un, donc, et est-ce qu'ils vont pas retrouver un... Ils en retrouvent. Alors, je sais pas si vous suivez si vous lisez les journaux, vous voyez que chacun cherche le dernier poilu de son département. Donc, il y a une multiplication de derniers poilus. Et donc, le Figaro avait titré « Enfin, un septième poilu retrouvé ». On en retrouve des huitièmes. Donc, ça va être très difficile pour le gouvernement de choisir le moment de l'inhumation. D'autant que ce serait embêtant que ce soit un marin Et dans les derniers, il y a un marin. Donc, comme symbole de la guerre des tranchées, c'est... Donc, j'aimerais pas avoir à gérer ce dossier, en tous les cas. Mais il montre que le symbole est encore actif, d'autant qu'on réfléchit à des lieux qui ont une portée nationale très importante, hein, les Invalides, Douaumont. Donc, ça prouve que le gouvernement considère finalement que la mise en scène, si vous voulez, de la Grande Guerre dans l'espace public peut être encore activée à des fins, disons, de création ou d'alimentation de l'identité nationale. Et quand on regarde les attendus des députés, d'ailleurs de gauche comme de droite, et des sénateurs qui ont soutenu cette proposition, hein, on est frappé d'y retrouver le discours tout à fait habituel, hein, sur la construction de l'identité nationale, sur le sacrifice, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on peut, à travers cet exemple, hein, se rendre compte que pour un certain nombre d'élus de la nation, la Grande Guerre a encore un symbole activable, hein, pour créer de l'identité nationale, pour produire du consensus. Et ça m'a frappé, hein, de voir que tous ces députés n'insistaient pas tant sur la dimension du sacrifice ou du massacre, mais sur la dimension de pédagogique, hein, de ce que ce dernier poilu pourrait apporter aux jeunes Français d'aujourd'hui si, en l'inhumant, on expliquait ce qu'il en était. Alors voilà, identifier rapidement, hein, trois types d'enjeux de mémoire, hein, les débats politiques, hein, autour des aspects les plus controversés de la Grande Guerre, l'identité locale et l'activation pour la symbolique nationale de la Grande Guerre. Mais à mon avis, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut discuter. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant pour nous, c'est que la Grande Guerre devient, à mon avis, un enjeu patrimonial. On le sait bien, tous les historiens de ces questions l'ont montré, il y a une patrimonialisation du passé qui est de plus en plus forte, il y a un succès croissant de toutes les associations patrimoniales, de la mise en musée, et dans ce grand mouvement, hein, qui dépasse largement la Grande Guerre, il me semble que cette guerre de 14 a un rôle très important. Pourquoi ? Parce que, à la différence de nombreux patrimoines, c'est un des patrimoines français les plus partagés. Je vous rappelle qu'en 14-18, il y a eu 8 millions de mobilisés, plus d'1 400 000 morts. Donc ça veut dire que quasiment toutes les familles françaises, hein, au sens très large, hein, de l'époque, ont eu des blessés ou des morts, hein, dans leur famille. Donc du point de vue du rattachement à une histoire nationale, et c'est pour ça que, à mon avis, ce succès va être croissant, la Grande Guerre est facilement utilisable, beaucoup plus que d'autres événements. Parce que c'est sans doute un des événements historiques les plus partagés, hein, dans les familles françaises, événement qui peut apparaître comme de la grande histoire, hein, sans qualifier ce que c'est qu'un événement historique. Mais c'est là où beaucoup de familles peuvent trouver une histoire propre qui croise une histoire générale. Alors évidemment, et en plus qui le croise d'une manière relativement glorieuse, vidéo. Parce qu'il y a évidemment, il y a des histoires familiales qui croisent la Seconde Guerre mondiale, avec Pierre Laborie tout à l'heure, mais généralement ça peut les croiser de manière soit disons particulièrement délicate pour la mémoire familiale, soit de manière plus compliquée. Avec la Grande Guerre, il y a un certain nombre de mémoires qui sont simples, hein, c'est un poilu qui s'est battu comme les autres, donc qui peut participer aux honneurs de la nation comme les autres. Donc ce croisement possible entre un destin familial et une histoire générale fait que la Grande Guerre, dans le développement du patrimoine, dans le développement d'une histoire qu'on pourrait dire amateur, a une place qui me paraît croissante. Alors comment étayer mon propos ? Ben, simplement en vous donnant quelques marques, hein, de cette patrimonialisation croissante de la Grande Guerre. Vous savez, le développement de la généalogie, hein, aujourd'hui de manière croissante, aujourd'hui là aussi, hein, et la Grande Guerre, évidemment, est un moment où on peut accrocher sa généalogie. Et évidemment, il y a énormément de sites, énormément de demandes, hein, tous les historiens de la Grande Guerre en reçoivent en permanence, hein, de familles qui s'intéressent au destin de leurs ancêtres dans la Grande Guerre, d'abord dans une perspective généalogique. Mais ensuite, cette perspective généalogique peut parfois conduire ces familles à autre chose, parce qu'elles tombent évidemment sur une histoire. Parfois, on est parti sur le front d'Orient, parfois on a participé à tel ou tel événement. Donc, d'une démarche généalogique, on a parfois une démarche qui s'approche plus d'une démarche historienne. Et en tous les cas, ces démarches généalogiques pour la Grande Guerre sont en croissance. On le voit aussi avec de plus en plus de sites amateurs où les familles racontent leur propre histoire à travers la Grande Guerre. On le voit par l'édition de carnets de famille. On le voit aussi par le dynamisme associatif. Il y a énormément d'associations autour de la Grande Guerre. Il y en a sur les zones de front, hein, ça fait 800 kilomètres, hein, le front de la Grande Guerre, donc ça veut dire que ça couvre énormément de régions. Et donc, ce dynamisme associatif est assez frappant, hein, de plus en plus, pour valoriser les sites, pour valoriser des sites de mémoire, pour développer la muséographie. On en trouve partout. Il n'y a pas une micro-région du front, maintenant, qui n'a pas une petite association qui prend en charge les vestiges, qui prend en charge l'accueil des touristes, hein, de manière parfois tout à fait informelle et souvent assez sympathique pour leur faire visiter le territoire. Mais d'ailleurs, pas seulement sur les zones du front, je vous prenais l'exemple tout à l'heure de la Bretagne, il y a une association très dynamique qui s'appelle Bretagne 14-18, hein, tout entière consacrée à la mémoire des Bretons pendant le conflit, et on pourrait faire le tour des régions de France. Donc, ce que je conclurai de ce petit tour d'horizon, c'est qu'il me semble que la Grande Guerre est en train de devenir une forme de pratique sociale, chez nous. Pratique généalogique, pratique associative, hein, pratique historienne. Hein. Combien de carnets de famille sont édités par les petits-enfants, par les arrière-petits-enfants? Et donc, c'est ce que j'aimerais donc soumettre à votre appréciation, hein, cette proposition que désormais, plus qu'un enjeu de mémoire, ça devient une pratique sociale et que pour les historiens ou les enseignants, c'est quelque chose à prendre en considération. Alors, la réserve, évidemment, pratique sociale pour quelle génération? Hein, évidemment, peut-être pas pour les plus jeunes, hein, puisque généralement, c'est plutôt la génération des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Pratique sociale et pratique culturelle aussi. J'ai calculé, par exemple, qu'on publiait de plus en plus de livres sur la Grande Guerre et qu'il y avait une inflexion très nette à partir de 1994. Et donc, ça, en comparant la liste de publication des livres sur la Grande Guerre par rapport à la liste de publication des livres que fournit la Bibliothèque nationale, on se rend compte qu'on publie plus sur la Grande Guerre qu'en moyenne sur d'autres sujets. Et que ça depuis, en gros, une dizaine d'années. Donc il y a un regain d'intérêt sur la Grande Guerre qui correspond absolument à ce qu'on constate du point de vue patrimonial. Hein, regain d'intérêt sur lequel on pourra revenir, mais qui se marque aussi par les succès des films et des romans. Là aussi, je vais vite en discuter. Si on cumule l'entrée du film de Genet, Un long dimanche de fiançailles, et de celle de Carion, Joyeux Noël, ça fait pratiquement 7 millions d'entrées. Donc ça veut dire que là aussi, hein, toutes les familles ont discuté d'un film sur la Grande Guerre dans les deux années précédentes. Au moment où je vous parle, il y en a un autre qui va sortir, d'ailleurs je vous invite à voir parce qu'il est très beau et très émouvant. En plus, il y a Anouk Grimbert qui est absolument charmante dans le film, en infirmière. C'est Les Fragments d'Antonin sur un soldat qui a subi un choc psychologique. Et donc encore une rentrée cinématographique où il y a un film sur la Grande Guerre, tout entier consacré à la Grande Guerre. Alors, je sais, il n'aura sans doute pas le succès des deux précédents, hein, mais c'est dire que c'est devenu finalement un produit culturel ordinaire, hein, que la rentrée avec un film relativement important sur la Grande Guerre. Alors évidemment, la question qui se pose à nous, c'est comment finalement inscrire cet intérêt, si tant est que j'ai raison, mais je pense que j'ai raison de le voir, puisqu'on voit tous les historiens de 14-18 constatent, hein, cette croissance de l'intérêt. Alors il y a trois manières de voir les choses. Soit on prend de la distance et on dit ce regain d'intérêt, c'est un objet d'histoire en soi, hein, donc on met à distance et on regarde comment fonctionne l'objet Grande Guerre. Soit on s'en sert d'un levier pédagogique, ce qu'il faut faire évidemment, c'est-à-dire quand il y a un film, bah, c'est un moyen de dérouler la plot, hein, on a tous fait ça. Soit troisième possibilité, qui est moi celle qui m'intéresse le plus, c'est finalement de se dire de cette pratique sociale, hein, de la mémoire de la Grande Guerre, mémoire culturelle, roman, généalogie familiale, édition de carnet, d'essayer de faire un lieu d'échange entre, comme pour parler comme les sociologues pragmatiques, entre les savants et les profanes, entre guillemets. C'est-à-dire se dire que là, comme on a un pan d'histoire qui est devenu une pratique, pour nous historiens, c'est l'occasion de débattre, hein, non pas du haut de la chaire, mais peut-être dans des forums un peu plus ouverts, hein, avec tous les gens qui ont ces types de pratiques. Et pour l'avoir fait un certain nombre de fois, j'ai trouvé ça très enrichissant des deux côtés, donc peut-être ouvrir un peu l'histoire de la Grande Guerre, hein, à un large public, non pas uniquement sous la forme de conférences ex cathedra, mais d'échanges en essayant de comprendre pourquoi cette forte présence. Et notamment, ce que je trouve assez fascinant, moi, c'est la transmission familiale, hein, de la Grande Guerre, hein, qui est très très forte et dont on n'a pas saisi tous les enjeux. Donc faire de la Grande Guerre finalement un lieu qui soit un forum d'échange, hein, entre tous les gens que ça intéresse, où les historiens auraient une place, évidemment, la place qui est la leur, professionnelle, mais une place parmi d'autres. Voilà peut-être une proposition de réflexion. J'en arrive, parce que le temps avance, à ma seconde partie. Alors je vais avoir moins de temps et pourtant elle est plus polémique, sur les enjeux proprement historiens. Je vous disais en introduction qu'il me semble que les connaissances sur la Grande Guerre ne sont pas stabilisées. Ça peut paraître étonnant, hein. On a l'impression que beaucoup de choses sont publiées. En fait, il y a beaucoup de choses sans intérêt qui sont publiées parce qu'il y a toute la veine commerciale. Donc ça ne fait pas avancer la connaissance savante. Et puis surtout, on est frappé par le peu de monographie savante, véritablement, par rapport à l'immensité de l'expérience. Hein, c'est quand même une expérience militaire qui est partagée, hein, à l'échelle de l'Europe, hein, par des dizaines de millions de soldats. Et immense expérience, finalement, a suscité peu de monographies savantes. Et il y a eu une forme de trou. Alors, il y a une génération, hein, celle des gens qui ont autour de 70-80 ans aujourd'hui, qui a fait des grandes thèses, hein, sur la guerre de 14. Il y a eu celle de Jules Morin sur les soldats du Languedoc, celle de Pro sur les anciens combattants, celle de Meynier sur les soldats d'Algérie en 14-18, celle de Pedroncini sur les mutineries, etc. Donc, il y a eu des thèses dans les années 60-70, et puis il y a eu un trou. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces historiens-là ont abandonné le chantier de la Grande Guerre, malheureusement. Hein, Morin est devenu en fait, c'est surtout concentré sur l'administration académique. Prot a fait beaucoup d'autres choses, l'histoire de l'éducation, l'histoire de la gauche. Meynier, finalement, a développé plutôt l'aspect colonial que l'aspect grande guerre. Et Pedroncini, peut-être, est celui qui a le plus continué, mais sans se centrer spécialement sur la Grande Guerre. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un trou, hein, après ces grandes thèses des années 70. Et dans ce trou, béant par rapport à l'immensité du sujet, s'est engouffré dans les années 90 une nouvelle école historiographique qu'on appelle rapidement l'école de Péronne, et qui s'est voulue en rupture avec cette génération-là. Rupture plus ou moins théorique, plus ou moins construite, puisque un des pères fondateurs était de la même génération, c'est Jean-Jacques Becker. Alors, qu'est-ce que c'était que cette rupture des années 90 par rapport à cette historiographie? Alors, là où l'école de Péronne avait raison, c'est qu'il y avait un trou à combler, hein, puisque ces grandes thèses étaient quand même, avaient là une quinzaine d'années, qu'elles n'avaient pas produit tout le fruit qu'elles auraient dû produire. Donc, rupture, d'abord parce qu'il fallait combler un vide, en quelque sorte, mais rupture aussi en voulant renverser la perspective. Pour l'école dite de Péronne, ou de l'historial de Péronne, beaucoup d'historiens, et donc cette génération que je viens d'évoquer, ces grandes thèses que je viens d'évoquer, ont considéré par trop les soldats comme des victimes d'une guerre qui leur était tombée dessus sans qu'ils en soient acteurs, et tous les historiens, pratiquement, ils disent à peu près comme ça, ont été victimes du témoignage des anciens combattants, et finalement n'ont fait que prolonger un discours victimaire des combattants sur eux-mêmes, et donc donner une image de la guerre qui était celle de pauvres soldats allant se faire massacrer sans y pouvoir rien, et donc par un État qui n'aurait pas pris en compte la vie humaine. Et donc, contre cette historiographie victimaire ou victimisante, il fallait revenir à la vérité de 14-18, et donc ils annonçaient la grande rupture épistémologique et morale qu'ils vont proposer à partir des années 90. Cette grande rupture historiographique, qui est mise en scène comme une rupture historiographique, c'est pas moi qui interprète, ici je ne fais que suivre le discours de ces historiens, donc j'appelle sous l'école de Péronne pour aller vite, parce que le temps avance. Quel est leur paradigme et quelle est leur proposition pour ne pas tomber dans la victimisation des soldats et pour ne pas tomber sur une histoire finalement lacrymale de la guerre de 14, disent-ils? C'est que, en réalité, loin d'être des victimes, loin d'avoir été manipulés ou d'être de doux moutons passifs partant à l'abattoir, ces soldats étaient porteurs, comme tout le monde, à l'époque, d'une culture de guerre. Culture de guerre que vous retrouvez dans les manuels et qui est fondée sur les éléments suivants, que je vous liste vite, on pourra en reparler. Contrairement à ce qu'avait dit l'historiographie, les soldats adhéraient au conflit qu'ils ont mené. Ils y consentaient. Ils sont partis en voulant faire la guerre, en l'assumant et en la menant. Dans un esprit de croisade, dit-on, porté par un renouveau de la foi et par une haine de l'ennemi, qui faisait qu'on le tuait très facilement et pas du tout par cet esprit de fraternisation que des historiens gauchistes voudraient voir partout. Donc, haine de l'ennemi, esprit de croisade, renforcement de la foi et donc progressivement brutalisation des hommes, de plus en plus devenus des brutes au combat. Et donc la violence, contrairement à ce que disait la génération précédente, n'était pas opaque, elle était assumée. C'est-à-dire que ces soldats étaient brutaux et violents, et ils étaient brutaux et violents parce qu'ils étaient empreint d'une culture de guerre qui les faisait considérer l'ennemi comme l'autre absolu, comme quelqu'un qu'il faut absolument éliminer. Alors, ce package d'idées a été servi par une énorme stratégie marketing appuyée sur un musée qui effectivement renouvelait la muséographie de la Grande Guerre et qui est l'historial de Péronne, hein, qui s'est développé très vite à partir des années 90. Alors, qu'est-ce qui fonde ce renversement de proposition et qu'est-ce qui fait qu'il a marché? Parce qu'il y a des stratégies marketing qui échouent, celle-là a très bien marché, comme on le voit dans les manuels scolaires. Premièrement, ce qui est, je pense, a fait la force de l'école de Péronne, c'est la capacité à tenir un discours global sur la guerre. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où l'historiographie jusque-là était fragmentée, où les grands historiens des années 70 n'avaient pas prolongé, donc n'avaient pas construit finalement, au-delà de leur thèse, un discours sur la Grande Guerre, l'historial de Péronne, lui, a tenu un discours global, soutenu, en réalité, je vais vous le montrer, plus sur des intuitions que sur des travaux empiriques. Donc voilà leur force, hein, c'est d'avoir un modèle d'ensemble. Leur faiblesse, en revanche, c'est, me semble-t-il, l'absence complète des pratiques des sociétés en guerre dans leur modèle. C'est-à-dire tout ce que je vous ai dit est fondé finalement sur des représentations. Alors non pas que les représentations, je parle à côté de Pierre Labouré, qui est un éminent spécialiste, ne sont pas un enjeu, hein, pour les historiens, mais ce sont des représentations qui sont totalement déconnectées des pratiques et déconnectées des sociétés qui les activent. Donc, la haine, l'esprit de croisade, la brutalisation, tout ça n'est pas étudié dans la manière dont les gens fonctionnent concrètement sur le champ de bataille, mais est en quelque sorte affirmé, affiché comme une intuition que les sources finalement corroboreraient. Or, il me semble qu'on a mis les choses à l'envers. Il aurait fallu voir comment les soldats pratiquent la guerre avant de poser qu'ils la pratiquent en étant devenus des hommes brutaux et en assumant leur violence. Pour vous donner un exemple très concret de cette surrevalorisation des idées et des représentations par rapport aux pratiques sociales, prenons la notion du consentement. Les soldats ont consenti. Démonstration, ils sont restés là pendant toute la guerre. Donc, si vous êtes tous là, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Voilà le type de raisonnement qui me semble un peu aporétique, qui est de dire, puisqu'on est là, c'est qu'on adhère. Sinon, il y aurait eu plus de mutineries. Et d'ailleurs, les mutineries, finalement, ce qu'on s'étonne, c'est qu'elles n'aient pas été plus nombreuses. Or, c'est évidemment pas comme ça que les choses se passent. Pourquoi ? Parce que, ça a été très bien montré par beaucoup de sociologues, on n'a jamais le droit de passer d'une situation à une croyance. C'est-à-dire que on ne peut pas passer d'une présence à une croyance. Il n'y a pas de mécanisme qui vous permettrait de déduire de la présence de quelqu'un ses croyances. Et c'est là, à mon avis, l'énorme faiblesse de toute cette thèse. C'est de dire, finalement, d'inférer que parce qu'on est là, on adhère. Alors évidemment, si vous le posez comme postulat, comme un postulat de représentation, oui, ils sont là dans les tranchées, et c'est vrai qu'ils ne les quittent pas. Mais ce qu'on pourrait voir en lisant les correspondances de soldats, et qui n'est jamais évoqué par exemple, c'est que ces soldats mettent en permanence en place des stratégies d'esquive du combat. Des stratégies d'esquive qui sont multiples. Par exemple, c'est d'être très heureux d'être blessé. Alors, évidemment, c'est peut-être du consentement, mais le nombre de fois on trouve dans les carnets de soldats « chic, j'ai la bonne blessure », ou pour soi ou pour un autre. Alors évidemment, tout ça n'apparaît pas comme quelque chose, mais une histoire des pratiques qui fasse attention, par exemple, à la pratique de la bonne blessure, on se rend compte que pratiquement, dès que les soldats sont blessés légèrement, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils quittent le front. Alors, je ne vois pas comment on peut, si vous voulez faire connecter ce type de pratique, avec un consentement qui serait général. Un exemple qui est frappant, c'est que très souvent, ceux qui ont de grands discours patriotiques qui pourraient aller dans le sens de la thèse du consentement, dès que leurs frères, leurs cousins ou leurs proches vont partir au front, ils leur déconseillent de s'engager dans l'infanterie. J'ai été frappé par le nombre de correspondances de guerre. Vous avez des grands discours patriotes, vive la France, on va y aller. Et dès qu'il y a le petit frère qui risque de partir au front, c'est surtout essaye d'éviter le front, essaye de trouver des troupes annexes, essaye de ne pas partir sur le front normand. Et donc en réalité, ce grand discours qui est celui du discours dominant, parce que les gens produisent le discours qu'on attend d'eux, le discours dominant, dès qu'il s'agit de pratique, dès qu'il s'agit de voir son petit frère dans les tranchées, il n'y a plus personne. Et c'est normal. Et donc du coup, quand on fait une histoire qui est ancrée sur ce que font les gens, et non pas sur des discours généraux, alors évidemment, on trouve plus du tout la guerre de Pérone. Elle n'existe plus, cette culture de guerre. Tant que c'est les mots, tant que c'est les idées. Alors oui, là, vous allez trouver tout ce que vous voulez dans la presse, sur les boches qu'on embroche à la baïonnette. Et dès que vous lisez des correspondances ordinaires, dès que vous lisez des sources d'archives ordinaires, vous la trouvez, ça. Évidemment que ça existe aussi. Mais vous trouvez énormément de toutes ces stratégies d'esquive qui sont petites, qui sont modestes, et pas des grandes mutineries. Jamais, bien sûr. Mais c'est des tas de petites choses qui montrent que quand vous faites de l'histoire sociale, vous rencontrez un monde qui n'a rien à voir avec cette culture de guerre. Un monde qui est fait de complexité, de multiplicité des facteurs d'adhésion ou de refus. Et donc du coup, après avoir été assommé par la stratégie marketing de Pérone, il y a un certain nombre d'historiens qui ont commencé à réagir, en se disant que tout ça ne tenait pas énormément la route. Parmi eux, d'abord Frédéric Rousseau et Rémi Casals, qui se sont dit « on ne tient pas parce qu'on est patriote, on tient pour une multiplicité de facteurs ». Et j'y insiste parce que c'est le discours dominant, vous suivez pas forcément les débats sur 14-18, ni Casals ni Rousseau ne sont des partisans de la contrainte, qui ne disent pas qu'on tient dans les tranchées parce que on y est obligé. Ils disent qu'il n'y a pas un consentement patriotique qui fait tenir les soldats, mais une multiplicité de facteurs, et qui sont variables selon les périodes, selon les enjeux. Donc il ne s'agit pas d'opposer frontalement des gens qui disent on tient dans les tranchées parce qu'on est patriote, parce qu'on consent, et ceux qui disent on tient dans les tranchées parce qu'il y a des sergents serfiles qui sont derrière avec des pistolets pour faire marcher. Il s'agit de dire qu'il est absolument impossible de faire une histoire de la guerre qui soit une histoire d'une culture de guerre générale qui ne prenne pas en compte la multiplicité des facteurs. D'autant plus que beaucoup des sources qu'utilisent les historiens de Pérone sont souvent des sources de l'arrière, des sources de la propagande patriotique, ou des sources qui sont très formalisées, comme les journaux de tranchées, qui sont faits, en fait, généralement par des officiers ou plutôt par des gens bourgeois et lettrés. Et de fait, on n'y trouve pas forcément la même guerre que celle dans des journaux plus ordinaire. En plus, me semble-t-il, la notion de culture de guerre est éminemment problématique. Ça n'a aucun sens d'attribuer une culture générale
à toute une société. Il n'y a pas une culture, ça n'existe pas. Hein. Une culture, c'est toujours fait de récupération de briques et de brocs. En plus, et ça me paraît une grande faiblesse, on ne comprend pas comment elle arrive, cette culture. On a l'impression que c'est comme une épidémie. C'est la grippe espagnole. Tout le monde attrape la culture de guerre en 1914. Alors on aimerait bien voir quel processus. Hein. Et c'est là où, à mon avis, il y a un problème explicatif. Une culture, on doit l'expliquer. On ne doit pas la prendre comme acquis. Ce n'est pas la culture de guerre qui va expliquer qu'on tienne. On aimerait savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a une culture de guerre. Quels sont les processus qui transforment, éventuellement, hein, si tant est qu'elle existe, que je ne pense pas. Hein. Donc, il y a un problème explicatif. Hein. La culture de guerre explique la guerre, et donc la guerre ensuite dure parce qu'il y a une culture de guerre. Alors, où est le processus historique, hein. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui, à un moment, qui auraient attrapé, hein, et c'est, je reprends le terme d'un sociologue, Gérard Lamplu, hein, qui dit qu'une culture ne s'attrape pas. Hein. Il y a des processus, il y a des constructions. Donc, du coup, à ces propositions méthodologiques de l'historien de Péronne, il y a quelques contre-propositions qui ont été faites, qui de revenir à une histoire des pratiques pour comprendre ce qu'ont vécu les gens en 14, hein, comme celle de la stratégie d'esquive ou d'un ancrage plus fort dans le social. Et je passe sur ces propositions pour conclure. Première remarque, hein, je suis désolé d'être allé aussi vite, mais il faut aussi parler d'autre chose. Il me semble qu'il faut prendre acte, contrairement à ce que font un certain nombre de manuels scolaires, si je crois ce que me disait tout à l'heure Caroline, ce que j'ai pas vu le dernier, il n'y a pas de stabilisation des connaissances. On n'est pas dans l'état de dire aux élèves, il y a une culture de guerre. C'est un effet d'une stratégie de politique historienne, bonne ou mauvaise, mais ce n'est pas un effet d'une démonstration savante. Donc quand on enseigne la culture de guerre, on enseigne une vision, que moi je pense fausse, mais bon, ça peu importe, mais on n'enseigne qu'une vision. Hein, des choses, et donc une vision sur quelque chose qui n'est pas stabilisé, du tout. C'est pas stabilisé parce qu'on manque de monographie, parce qu'on manque de travaux savants, parce qu'il y a énormément de débats qui sont en jeu, il y en a mille autres que j'aurais pu évoquer. Donc je crois qu'un des enjeux pour l'instant sur 14-18, c'est de rappeler cette pluralité interprétative. Hein, on n'a pas le droit, je pense, intellectuellement, d'enseigner, à quelque niveau que ce soit, de ce type de thèse, sans rappeler qu'elles sont éminemment discutables, non pas uniquement par leur fond, mais simplement aussi parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui... Deuxième remarque, il ne faut pas tirer, évidemment, dans le sens que ce type d'enseignement masquerait un certain nombre de tabous sur 14-18 qu'on n'aurait pas vu. Et là, je mets en garde sur cette notion parce qu'elle est souvent évoquée, et notamment dans le livre, d'ailleurs très, très intéressant, sous la direction de Marc Ferraud sur les fraternisations, il y avait marqué en bandeau le dernier tabou de la guerre de 14. C'est pas vrai, les historiens savent depuis très longtemps qu'il y a des fraternisations. On n'a pas attendu Christian Carion. Hein, pour s'en rendre compte, hein, simplement. Donc, c'est pas pour, pas parce qu'il y a une pluralité interprétative qu'il faudra aller chercher derrière des tabous qui n'existent pas. Les historiens ont travaillé, ils l'ont beaucoup fait, y compris sur ces sujets. Ensuite, qu'ils accèdent à l'espace public, je vous l'ai dit, pour la question de la répression militaire, c'est plus compliqué. Dernier point sur lequel j'aurais aimé conclure, que faire de toutes ces fictions dont on nous abreuve, hein, cinéma, roman, hein, du point de vue pédagogique. Alors là, la question est très ambiguë parce que, tous ces romanciers, ces cinéastes, j'en ai rencontré un certain nombre, ils sont eux-mêmes très ambigus, et c'est normal. C'est-à-dire qu'ils ne prétendent pas faire de l'histoire, mais ils en font quand même, et ils lisent beaucoup les historiens. Donc nous, historiens, on est dans une forme de discours très compliqué. Hein, parce que ça prétend à l'autonomie de la fiction, et en même temps, ça prétend dire quelque chose sur l'histoire. Et donc, du point de vue de l'enseignement, c'est très compliqué. Et je pense qu'il faut quand même garder, malgré la prétention historique, prétention au sens légitime d'un certain nombre de scènes, une forme d'autonomie de la fiction. Hein, parce qu'il y a finalement quelque chose qui est en train de se banaliser, c'est de dire finalement la guerre de 14, maintenant elle passe hein, par des romans, par des films qui ont un accès à l'espace public qu'aucun d'entre nous n'aura jamais, et c'est bien normal. On est sans doute beaucoup plus ennuyeux que Christian Carion, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même que, du point de vue pédagogique, on essaye de rappeler cette autonomie. Et à mon avis, ça se perd un peu, parce que du coup, c'est le contrepoint de ce que je vous disais, de levier pédagogique, on en fait en disant, ben voilà, la fraternisation, c'est Carion. Donc je m'arrête là, et je vous remercie de votre écoute.